Radio Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
La CENI est appelée à régler tous les problèmes logistiques dont se plaint la population. C'est ce que demande l'ONG OSISA, Open Society Initiative Southern Africa, après 6 jours depuis le lancement de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Nick Elebe, directeur pays de OSISA RDC, sera notre invité dans cette édition du journal. Et puis 3 membres du gouvernement Sam Maloukonde, tous membres de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, ont démissionné de leur poste. Il s'agit des ministres du Plan et des Transports ainsi que la vice-ministre de la Santé. Ils ont tiré les conséquences du retrait de leur parti de l'Union Sacrée. Enfin, à Kisangani, des professeurs émérites et quelques professeurs ordinaires de l'université de Kisangani ont reçu des véhicules de main du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. La cérémonie de remise s'est déroulée hier à l'esplanade du bâtiment administratif de l'université de Kisangani. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Processus d'enrôlement des électeurs, l'ONG OSISA, Open Society Initiative Southern Africa, appelle la CENI à régler tous les problèmes logistiques dont se plaint la population. Cette organisation des questions de droits humains, démocratie et bonne gouvernance réagit ainsi après le lancement il y a déjà 6 jours de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs qui se déroule dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. On écoute son directeur pays, Nick Elebe, au micro de Donna Madimba.
Je dirais qu'il est trop tôt pour juger sur ces couacs et déterminer s'il s'agit simplement de problèmes de démarrage ou bien si les problèmes sont beaucoup plus profonds. Mais il faut déjà considérer que les défis logistiques, s'ils perdurent, font courir énormément de risques au processus électoral. Les risques sont notamment au niveau de la population, au niveau de ceux et celles qui doivent se faire identifier, enrôler. Oui, le processus effectivement d'enrôlement, d'identification des électeurs a été lancé. Il faut d'abord féliciter le fait que ça soit effectivement lancé, parce que c'est une phase extrêmement importante du processus électoral qui gagne à être faite dans les meilleures des conditions. Sur terrain, on observe néanmoins que le processus, l'enrôlement, l'identification fait face à de nombreux défis logistiques.
Notez que Nick Elebe, directeur pays de OSISA, sera notre invité dans cette édition du journal. Et puis au sujet de l'enrôlement des électeurs toujours, sachez que Joël Ilangila, jeune acteur politique qui s'est enrôlé ce mercredi à Mbandaka, déplore la lenteur et les difficultés logistiques constatées lors de ces opérations. C'est pourquoi il recommande à la CENI une amélioration urgente des opérations, mais aussi en tant que futur candidat, il invite la population à aller s'enrôler massivement tout en évitant les doublons. Joël Ilangila s'est exprimé au micro de Paul Richard Malengela.
Après l'enrôlement, j'ai constaté qu'il y a d'abord la lenteur. On a trouvé ici dans le bureau de Kofunkema seulement 2 machines. Or, ici à Mbandaka, il fallait qu'on ouvre plus ou moins 35 bureaux. On vient d'ouvrir seulement 10. Ici à Mbandaka, c'est très grave. Je ne vois pas comment la population de Mbandaka va s'enrôler dans 1 mois et à 10 bureaux de vote. J'ai fait au moins 1 heure du temps avant d'obtenir la carte d'électeur. S'il en est ainsi ici à Mbandaka, et alors à l'intérieur des provinces, là-bas c'est très chaotique. Donc c'est pour cela que je demande à M. Kadima et M. le CEP de la ville de Mbandaka d'améliorer le système ou bien de prolonger encore dans l'enrôlement 3 mois. Comme c'était fait la fois passée, à l'époque de M. Corneille Nanga. En dehors de cela, je demande aussi à la population de Mbandaka de s'enrôler massivement, mais il ne faut pas s'enrôler 2 fois. Il faut s'enrôler 1 fois parce que le serveur va vous détecter, parce que ça risque de diminuer le nombre de sièges dans la province de l'Équateur en général.
Contactez le secrétaire exécutif provincial de la CENI Équateur, Achille Bolé, qui est là, a justifié la lenteur du fait que la CENI a cette fois-ci introduit des nouvelles applications pour sécuriser la carte, telles que la capture de l'iris, ainsi que par la mutualisation des données avec l'ONIP, Office national d'identification de la population. Autre nouvelle, à Bounia, réfléchir sur les défis qui bloquent le développement socio-économique de la province de l'Ituri. La réflexion était au menu d'une réunion tenue ce mercredi à Bounia par une vingtaine de partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation. Selon le responsable intérimaire de ce regroupement politique dans la province, la rencontre avait pour objectif de rappeler aux responsables locaux à l'approche des élections que plusieurs promesses faites n'ont pas été tenues. C'est par exemple le cas de la construction de plus de 300 de la voirie urbaine ou de la modernisation de l'aéroport national de Bounia. Maître Antoine Denaya, coordonnateur adjoint de l'Union sacrée pour la nation, s'exprime au micro d'Ezekiel Mouzalia.
L'Ituri est une province richement bénie par Dieu. L'Ituri dispose tout pour son développement ici. Mais malheureusement, il y a un paradoxe, il y a un constat malheureux, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Ituri n'avance pas. Il y a plusieurs défis. Premièrement, nous avons les défis sécuritaires. Avec toutes ces insécurités que l'Ituri est en train de connaître depuis 2017, ça a embrasé pratiquement l'ensemble de la province. Il y a plusieurs projets qui ont été initiés par pouvoir central, notamment la construction des voiries urbaines de la ville de Bounia, la construction de l'université de Bounia, la modernisation de l'aéroport de Bounia, pour ne citer que cela. Tous ces projets-là stagnent. Raison pour laquelle il est également pour nous de réveiller la conscience de tous ceux qui décident dans ces aspects-là, pour vu que les histoires marchent vite pour que l'Ituri également puisse se revêtir de sa plus belle robe.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, deux ministres et un vice-ministre du parti politique de Moïse Katumbi quittent le gouvernement Sam Malou Kondé. Il s'agit de Christian Mwando Simba Duplan, de Chérubin Okende, ministre des Transports et Voies des Communications, ainsi que le vice-ministre de la Santé, Madame Véronique Kilumba. Tous cadres d'ensemble pour la République. Cette démission intervient quelques jours après le départ de Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République de l'Union sacrée de la Nation. On écoute à ce sujet Christian Mwando Simba, ministre démissionnaire, au micro de Donna Madimba.
Je sais que le ministre du Plan de la province du Katanga vient de démissionner aussi. Je crois qu'il y aura beaucoup d'autres dans les institutions qui vont pouvoir démissionner. De toute façon, c'est un choix de loyauté, c'est un choix politique. Et je pense que la constance politique est quelque chose d'important dans notre pays. On ne va pas toujours appliquer la politique du ventre. Non, je crois qu'il est important pour notre peuple que les gens connaissent ce que c'est la loyauté. Et ça n'a rien à voir pour être pour tel ou tel, mais c'est un devoir d'honnêteté intellectuelle et de loyauté. Et je pense que notre pays a besoin de ça.
À partir de maintenant, devenez-vous opposant au régime Félix Tshisekedi, ou même à Félix Tshisekedi lui-même, pour désormais être beaucoup plus favorable à la candidature à la présidence de Moïse Katumbi, ou restez-vous en retrait en raison des raisons que vous avez évoquées, notamment rester cohérent pour avoir été membre du gouvernement?
Je vous demande de vous en référer aux conclusions du congrès d'Ensemble pour la République. Je suis loyal à mon parti politique, donc je vais avoir la position de mon parti.
Notez qu'à Lubumbashi, le ministre provincial du Plan et Budget, aussi membre d'Ensemble de Moïse Katumbi, a quitté ses fonctions. Christian Moumat Kaboulo l'a fait savoir hier mercredi dans une lettre adressée au gouverneur de province. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a présenté ce mercredi 28 décembre à l'hôtel Béatrice ici à Kinshasa son programme de gouvernance et une feuille de route pour les actions de bonne gouvernance à court, moyen et long terme. Un programme qui s'est articulé autour de l'autorité de régulation de la profession des médias et de l'état actuel de l'exercice de la profession en République démocratique du Congo. Il était question pour la nouvelle équipe du CESAC de se poser des questions principales, à savoir si l'état actuel de l'écosystème des médias en RDC ne se confond pas à une jungle, si l'autorité de régulation existe réellement en RDC et s'il n'y a pas de loi à faire respecter. De ce fait, trois axes prioritaires sous-tendent la vision de cette nouvelle équipe. C'est notamment la mise à jour d'une cartographie médiatique, la veille qualitative de la gestion du contenu des médias et enfin l'actualisation du code de bonne conduite des médias et des journalistes. Dans cet extrait, Christian Bossembe, président du CESAC, s'attelle sur le second axe, à savoir la veille qualitative du contenu. Christian Bossembe.
Par la veille qualitative de la gestion du contenu des médias, le CESAC renouerait avec la société qui, à ce jour, est malheureusement juge le travail insatisfaisant déjà abattu au regard de l'ampleur de maux qui rongent les médias congolais en le rendant peu professionnel. Quelques éléments. Si les médias ont respecté le principe de la répartition des temps d'accès entre les parties, si les créneaux d'accès directs ont été distribués de façon équitable? Comment les médias en période de campagne électorale ont rapporté éventuellement les déclarations, soit provocatrices ou diffamatoires, faites par des candidats? Si les médias se sont conformés à toute décision rendue par l'autorité de régulation en accordant un droit de réponse ou un droit rectificatif? Si les médias se sont conformés au principe d'accès équitable à toute personne au moyen officiel de l'information et de la communication?
Et puis au Sud Kivu, une vingtaine de journalistes de Bukavu ont été sensibilisés sur le rôle des médias dans la lutte contre les discours de haine en période électorale. C'était au cours d'un café de presse tenu à l'hôtel Horizon dans la commune d'Ibanda. Organisé par la section des affaires politiques de la MONUSCO Bukavu, en collaboration avec ses partenaires, cette rencontre a eu pour but de bien préparer les journalistes sur la couverture des élections et contribuer à l'aboutissement d'un processus apaisé au niveau du Sud Kivu. On écoute Darius Kitoka, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, au micro de Jean-Baptiste Ntonga.
Des rôles connus et traditionnels, notamment la neutralité, l'objectivité, éviter les sensationnels, et se rendre compte au niveau de la source de la bonne information. Nous sommes en train de préparer des rencontres que nous devons avoir, des cafés de presse, des tables rondes, des journées de réflexion, ainsi de suite. Donc le journaliste du Sud Kivu doit se préparer pour ce marathon-là, parce que nous savons que certains partenaires sont déjà disponibles pour nous accompagner, notamment la section des affaires politiques de la MONUSCO, BCNUDH encore MONUSCO, PIO de MONUSCO, la coopération suisse, pourquoi pas, Internews et bien d'autres structures qui aident les journalistes à bien faire leur travail. Et durant cette période, nous savons que les journalistes seront sensiblement mobilisés et formés pour qu'ils travaillent avec conscience, abnégation, courage et en toute liberté, bien sûr, tout en privilégiant le bien de tous et la réussite des élections au niveau de la République démocratique du Congo.
Et puis, en séjour à Uvira au Sud Kivu, le chef de la composante police de la MONUSCO, Beret Modi, a procédé ce mercredi à la décoration et la remise des médailles à 60 policiers jordaniens de l'unité formée de la police, FPI MONUSCO, en fin mission à Uvira. La cérémonie s'est déroulée à Kala Rutemba en présence des autorités locales civiles, urbaines, policières et militaires d'Uvira. Après une année de service rendu sous le drapeau des Nations Unies, cette équipe de 60 policiers jordaniens devra clôturer sa mission et rentrer en Jordanie au mois de mars prochain. Les autorités territoriales d'Uvira leur ont rendu hommage et ont salué le travail de ces policiers, surtout pendant la période de crise anti-MONUSCO au mois de juillet dernier à Uvira. Fiston Goma.
Le premier témoignage est celui de l'administrateur du territoire d'Uvira, Madame Julie Sango Malenga, apprécie encore à ce jour les travaux fournis par ces policiers jordaniens dans la plaine de la Ruzizi.
Nous avons constaté dans le milieu, il y a des formations et la MONUSCO a offert aux différents SIAT et l'entité territoire. Il y a aussi l'assistance des cachots, par exemple la sangue. Ce sont là des activités que nous faisons ensemble avec la police ici de la MONUSCO au niveau des territoires.
Du côté de la ville d'Uvira, cette unité constituée de la police a fait preuve du professionnalisme aux côtés de la police nationale congolaise lors de la crise anti-MONUSCO. La chef de division unique de la mairie d'Uvira, Jeanne d'Arc Tchakupewa.
Nous avons beaucoup félicité la remise des médailles comme signe de reconnaissance de l'engagement et des efforts de la MONUSCO pour accompagner notre pays, la RDC en général, et la ville d'Uvira en particulier, surtout le renforcement de notre police, surtout dans la ville d'Uvira, là où il y a la criminalité, il y a le banditisme. Nous avons besoin d'une police qui est vraiment engagée.
Après l'étape de Litour et d'Uvira, le chef de la composante police de la MONUSCO poursuivra sa mission d'itinérance à Bendera, dans la province de Tanganyika, et à Baraka Fizi, avant de regagner Bukavu. D'Uvira, Fiston Mayaba, la Radio Kapi.
Nous l'avons également dit au sommaire, mesdames et messieurs, dans la province de la Tchopo, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire a procédé ce mercredi à la remise des véhicules aux professeurs émérites et à quelques professeurs ordinaires. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du bâtiment administratif de l'université de Kisangani en présence des bénéficiaires. Reportage Jacques Munkonkole.
Au total, 26 jeeps 4x4 ont été remises aux professeurs émérites et à quelques professeurs ordinaires de la Tchopo. Une occasion pour le président provincial de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU de rendre hommage au chef de l'État, au premier ministre et au ministre de tutelle pour l'accomplissement de la promesse que d'aucuns croyaient politicienne. Professeur Jean-Faustin Bongilo-Boindi.
Alors que d'aucuns rangeaient cette promesse dans le lot des promesses politiciennes, le gouvernement de la République, à travers le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, l'honorable Muindo Nzangi Butondo était à pied d'œuvre pour sa matérialisation.
Les bénéficiaires saluent tout naturellement la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Ils espèrent qu'il en sera également de même pour ceux qui restent, ainsi que d'autres projets, notamment l'assurance maladie et les logements. Professeur Charles Kumbatulusita Bangbassa.
Le premier lot de véhicules vient d'être distribué. Il reste encore les professeurs ordinaires et tout le lot des professeurs associés. Nous espérons que, dans un délai pas trop long, nos collègues qui n'ont pas bénéficié de ce premier lot seront satisfaits.
Pour sa part, le délégué du RAPICO alerte sur l'impact négatif qu'engendrerait la non-exécution des arriérés des engagements sur l'année académique 2022-2023. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, après une accalmie pour Noël, les coupures de courant ont repris de plus belle en cette fin d'année. En cause, des centrales à charbon vieillissantes qui tombent régulièrement en panne, faute de bonne gestion de ces dernières années. Et ces coupures ont des conséquences directes sur l'économie et la croissance, alors que le pays se remettait tout juste de la crise sanitaire.
L'invité.
Notre invité ce matin, c'est Nick Elébé, directeur pays de l'organisation OCISA. Cette organisation qui s'intéresse aux questions des droits humains, démocratie et bonne gouvernance, réagit au déroulement des opérations d'enrôlement lancées depuis 6 jours dans la partie ouest du pays. OCISA appelle la CENI à régler tous les problèmes logistiques dont se plaint la population. Nick Elébé, directeur pays d'OCISA, répond aux questions de Donna Madimba. Suivez.
Nick Elébé, bonjour.
Bonjour.
4 jours après le début de l'enrôlement des Congolais pour les élections générales de 2023 en République démocratique du Congo, quelle est votre analyse de cette opération à ce stade? Se passe-t-elle bien selon vous, ou pas bien, ou mitigée?
Oui, le processus effectivement d'enrôlement, d'identification des électeurs a été lancé. Il faut d'abord féliciter le fait que ça soit effectivement lancé, parce que c'est une phase extrêmement importante du processus électoral qui gagne à être fait dans les meilleures des conditions. Sur terrain, on observe néanmoins que le processus, l'enrôlement, l'identification fait face à de nombreux défis logistiques qui ont fait l'objet d'ores et déjà à la fois de rapports de certaines missions d'observation, notamment la CIMOCEL, mais aussi de communication à travers les réseaux sociaux de citoyens qui se plaignent des couacs auxquels ils font face sur terrain. Alors, je dirais qu'il est trop tôt pour juger sur ces couacs et déterminer s'il s'agit simplement de problèmes de démarrage ou bien si les problèmes sont beaucoup plus profonds. Mais il faut déjà considérer que les défis logistiques, s'ils perdurent, font courir énormément de risques au processus électoral. Les risques sont notamment au niveau de la population, au niveau de ceux et celles qui doivent se faire identifier, enrôler, le risque de désengagement pour certains, n'est-ce pas, à cause de la fatigue, à cause de la lenteur et à cause de tout ce qui va derrière. Des risques pour certains de s'auto-délocaliser. Et le dernier risque, finalement, et le plus important, c'est un risque d'exclusion de certains électeurs.
Alors, Nick Elébé, vous l'avez mentionné un peu, dès le début de ces enrôlements, les populations fustigent beaucoup la qualité de la nouvelle carte d'électeur qui se délivre à la fin de cette opération. La photo surtout est presque invisible. Est-ce, selon votre observation, la majorité des cartes qui sont dans cet état ou juste une faible minorité des cas négligeables?
Difficile à dire. Pour moi, je pense que c'est plutôt la CENI d'informer sur cela. Peut-être que je dirais généralement que Certains se sont plaints que les photos soient en noir et blanc. Je pense qu'il y a des documents d'identité dans le monde dont les photos sont en noir et blanc. Le problème, le véritable, c'est celui de la qualité, effectivement, comme vous le mentionnez, c'est-à-dire que à la fin de la journée, ça reste un document d'identité et donc il faudrait être identifiable à travers ce document-là. Alors, ceci étant dit, je pense que la CENI devrait informer le public sur les moyens mis en œuvre par la centrale électorale justement pour pallier à ce problème-là, ainsi que sur les différentes spécifications de cette nouvelle carte et les autres moyens mis en œuvre pour garantir que l'identité des électeurs soit véritablement connue et soit préservée.
Nikelebe, aussi ça, votre organisation qui a l'expérience de surveiller la démocratie, les droits humains et la bonne gouvernance dans le monde et surtout en Afrique, pour une bonne qualité d'une élection, la mauvaise qualité de la photo telle qu'actuellement violemment décriée annule-t-elle, selon vous, toute la crédibilité de l'élection en question ou bien les autres éléments corrects de la carte, hein, comme on a l'impression que les noms et les dates de naissance, par exemple, ne posent pas problème. Est-ce que ces éléments-là peuvent suffire à crédibiliser une élection?
Je ne parlerai pas d'une élection qui serait décrédibilisée à cause de la qualité d'une photo. Je crois que c'est un paramètre qui peut être corrigé, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il revient à la CENI de mettre en œuvre des dispositifs pour justement pallier à cette situation, corriger les insuffisances observées jusque-là.
Mais est-ce que techniquement, si le problème persistait et qu'on n'avait que finalement ce type de carte, est-ce que ça décrédibilise une élection ou pas?
Non, je pense que la CENI, si mes informations sont correctes, je crois que la CENI met en œuvre différents éléments qui lui permettent d'identifier les électeurs, à la fois les données biométriques comme les empreintes digitales ou j'ai vu qu'il y a également un scanner de l'iris qui est le dispositif le plus sûr quand il s'agit d'identifier les individus. Ce qui est le plus important aujourd'hui pour la CENI, c'est d'informer sur ce qu'elle fait, d'informer sur les mécanismes mis en place pour garantir la transparence, la protection des données, mais aussi l'authenticité des informations mises à sa disposition. Et c'est à partir de là, justement, que la confiance est générée. Ce qui ferait la force d'un processus électoral, c'est le niveau de confiance, le niveau de transparence, le niveau d'intégrité qui est mis en œuvre, et surtout le fait qu'il y ait en permanence un pont communicationnel entre le public, les parties prenantes, la centrale électorale et tout autre acteur impliqué dans la mise en œuvre du processus électoral. Il ne faut pas oublier également la partie judiciaire, n'est-ce pas, qui reste un autre aspect qui n'est pas trop pris en compte ni considéré aujourd'hui, mais qui a un impact significatif sur l'intégrité des processus électoraux. Donc à ce stade, il est indispensable pour ce processus, pour la réussite de ce processus, pour le succès de ce processus, de faire de ce processus le processus électoral du peuple, c'est-à-dire un processus électoral qui met en œuvre tous les mécanismes pour une participation effective de la grande majorité.
Nikelebe, je vous remercie.
Merci à vous.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. La mise en onde était assurée par Mimi Kindou. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République, sous la coordination de Kéline Kouté et la supervision de Martin Sebujangwe. Merci également à vous pour votre particulière attention.